accomplit ce qu'il accomplit. Ce matin, j'aimerais partager à vous un message qui s'appelle « La crainte de Dieu ». Et je vous avoue que je suis moyennement à l'aise pour le partager. Moyennement à l'aise parce qu'on parle là de quelque chose qui est essentiel, qui est souvent mal compris, particulièrement par les hommes de Dieu, par les chrétiens. Le Proverbe 14, verset 27 nous dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alors ce matin, on va essayer de regarder, de découvrir ce que c'est, ça veut dire quoi la crainte de l'Éternel. On va essayer de trouver la définition qu'on pourrait trouver dans nos dictionnaires. On va essayer de trouver ce qu'en dit la parole de Dieu. On va essayer de trouver quelques exemples, on ne va pas faire une liste exhaustive, mais quelques exemples d'hommes qui ont craint l'Éternel, dans la vie desquels la crainte de Dieu, l'honneur de Dieu, la révérence de Dieu a été quelque chose de très marquant. Et puis on va essayer de voir comment du coup pour nous ça peut impacter, quelle invitation c'est pour nous. Et puis on va aussi regarder comment on peut être piégé, comment quand on oublie cette dimension-là, quand on la met de côté, ça devient un piège. Tout à l'heure, nous avons prié pour les enfants et je voulais juste nous rappeler ça parce que c'est en lien avec ce message-là. On prie pour les enfants, on prie pour leur enseignement, on a envie qu'ils grandissent avec Dieu. Et je crois que tout petit, ils peuvent recevoir des choses d'une manière importante, spéciale, et vivre des choses avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, je ne crois pas que tu l'aies celui-ci, mais dans 1 Samuel 3, 19, 21, Samuel grandissait, vous savez, Samuel, le petit Samuel, celui qui avait été apporté par sa maman Anne auprès du sacrificateur Élie. Il disait, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles qu'il entendait de Dieu, ce qu'il saisissait, ce qu'il voyait, les choses qu'il voyait autour de lui, et il les gardait comme un trésor. Et Samuel, à ce moment-là, est tout jeune. L'Éternel se révélait à Samuel par sa parole, c'était pour lui comme une source de vie. Dans la deuxième épître à Timothée, Paul va nous faire l'éloge aussi. Non, tu ne les as pas ceux-là. Hein ? De liste ? Non. Il y a un PowerPoint qui s'appelle « La crainte de Dieu ». Tu n'as pas un PowerPoint qui s'appelle « La crainte de Dieu » ? Non ? John, tu peux lui faire... Prends ma clé. Ce n'est pas grave, on va trouver, ne vous inquiétez pas. C'est sur la clé normalement. Enfin, c'est sûr même. Et puis sinon, ce n'est pas grave. On fera sans. D'accord ? Premier livre le deuxième livre de Timothée, qui nous dit « Je garde le souvenir de ta foi, de la foi qui est en toi, celle qui se trouvait déjà dans ta grand-mère Loïs et dans ta maman Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis personnellement pleinement convaincu. Demeure dans les choses que tu as apprises. » C'est un encouragement que Paul donne à Timothée, reconnu certaines. « Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse. » J'aime cette prudence de Paul. Et il dit, elles peuvent te donner la vraie sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Timothée a la responsabilité, le devoir de les transformer ou pas. C'est son job. Mais en tout cas, maman et grand-mère ont fait un bon job dans l'éducation de Timothée. Elles lui ont tout présenté, ce qui était nécessaire pour lui. Et Paul, du coup, va lui dire, elles peuvent te donner la sagesse nécessaire pour te conduire au salut en Jésus-Christ. Il l'encourage véritablement. Et puis, un autre verset que nous aimons beaucoup et que nous citons souvent un peu rapidement, je pense, mais on va le reprendre tout de suite, c'est Proverbe 22,6 qui nous dit « Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Alors, attention, ne soyons pas simplistes dans la lecture de ce verset. Le choix, c'est bien chacun qui doit le faire et l'enfant devra le faire. Mais il y a bel et bien une bénédiction pour pour celui qui est bercé dans la parole de Dieu. Et je crois que ça doit faire le fruit de notre intercession, non pas une intercession fataliste. On verra bien, puisqu'il a entendu la parole de Dieu quand il était petit, ça reviendra forcément. Non, mais une intercession au contraire active, une intercession, Seigneur, mon fils, ma fille a entendu des choses de toi. Soyons concrets, des fois on n'était pas les meilleurs communicateurs. Ce n'est pas un problème parce qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est parce que ce n'est pas la façon dont je l'ai dit. Puis il y a des moments où je n'ai pas été le meilleur des communicateurs. Mais si je m'humilie devant Dieu, si j'intercède, si je prie, je crois qu'il y a une action du Saint-Esprit dans la vie de nos enfants qui lui sait ramener ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu, de votre part d'une manière particulière, dans l'église aussi, mais de votre part d'une manière particulière. C'est le ramener dans le cœur des enfants et puis le faire germer, le transformer et l'amener comme une source de vie. Alors quand il sera grand, alors quand il sera dans le moment de la maturité, le moment d'analyser les choses, il pourra faire la différence et il pourra choisir pleinement. Pourquoi le lien avec la crainte de Dieu ? Eh bien tout simplement parce que, en fait, si dans ma vie, l'honneur de Dieu n'est pas calé correctement, je transmets une religion, je ne transmets pas la réalité d'une relation avec un Dieu vivant. Et voilà pourquoi, depuis cet été, ce message me travaille d'une manière plus particulière. Et voilà pourquoi j'avais envie de le partager avec vous. Je vais essayer d'être court. Ouais. Pas trop, parce qu'en fait, les enfants ont commencé plus tard, il faut leur laisser le temps. Ça a commencé cet été, une question dans un groupe de prière. On me disait, mais on parlait de la crainte de Dieu, puis on me citait le verset de 1 Samuel 2:30 qui dit: c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. C'est ce que Dieu dit. Dieu est en train de parler à Élie, pas Élie le prophète avec un E, mais Élie sans E, Élie le sacrificateur, l'avant-dernier juge avant Samuel en fait, hein. Celui qui va accueillir Samuel quand il est petit. Et Dieu lui dit, ben, j'avais prévu ça pour toi. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Dieu revient sur ce qu'il avait fait, sur ce qu'il avait dit. En fait, Dieu avait prévu que la maison d'Élie et ses fils le servent à perpétuité, que cette génération soit une génération gardée pour servir Dieu à perpétuité. Mais il dit, mais loin de moi, pourquoi ? Est-ce que Dieu change de plan comme ça ? Non, Dieu ne change pas de plan, mais quand moi j'ai une attitude qui ne l'honore pas, quand je me moque de qui il est, quand je suis léger avec lui et quand je suis léger dans mon éducation. Et voilà pourquoi ce verset est intéressant. Il dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et au départ, en lisant ce verset, on me disait, mais c'est dur. C'est dur, mais c'est la réalité. Je ne peux pas essayer de l'atténuer, c'est la parole de Dieu. Dieu avait confié à Élie un ministère bien particulier qui était celui de conduire le peuple dans la connaissance de qui est Dieu, mais il lui avait aussi confié, avant le peuple, il lui avait confié deux garçons. Et Élie a failli en tout à ce niveau-là. Il laissait ses garçons faire le bazar à l'entrée de la tente. Il récupérait les meilleurs morceaux de viande pour eux. Il martyrisait le peuple qui venait adorer. Il trompait le peuple qui venait adorer. Et Élie, voyant cela, ne fait rien. Et au bout d'un moment, Dieu choisit Samuel. Nous, on le sait maintenant. Mais Dieu choisit Samuel. Et c'est là qu'il va dire à Élie, tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé. Et du coup, tu seras méprisé. Non pas que Dieu méprise comme ça. Vous savez, un peu comme nous, on peut faire dans la rue quand on voit quelqu'un qui... Ouais, non, vous, ça ne vous arrive jamais, mais... Quand on voit quelqu'un qui ne nous plaît pas, on le snobe un peu. Dieu est pas, snob pas Élie. Dieu s'est révélé à Élie, il avait vraiment un vrai projet pour son cœur, mais dans l'attitude que Élie a eue, dans le mépris de la sainteté de Dieu que Élie a eue, eh bien, Dieu est obligé de lui dire ça. Maintenant, loin de moi, ce que je t'avais dit, je ne peux pas l'appliquer parce que tu ne m'as pas servi, tu n'as pas cherché à me connaître, tu ne m'as pas honoré. Si tu m'avais honoré, si tu m'avais craint, je t'honorerais, mais tu m'as méprisé, alors tu seras méprisé. Cet été, au mois d'août, tout début août, je vous conseille, si vous ne l'avez pas écouté, on a partagé des messages sur la parole de Dieu, sur la prière. Et puis tout début juillet, et tout au long du mois de juillet, il y avait des messages avant qui parlaient de la motivation de nos cœurs, de qu'est-ce qui motive réellement nos cœurs quand on se présente devant Dieu, et qu'est-ce qui motive nos cœurs dans notre quotidien. On avait commencé avec un message du pasteur David Potier, puis Claude avait continué dans cette ligne-là sur le mois de juillet, et en août on avait continué en disant mais là il y a des choses que nous sommes amenés à vivre. On parlait de tout ce qui est de trop dans nos vies, et qui tous ces trop qui nous empêchent de lire la Bible, et tous ces trop qui nous empêchent de prier, tous ces trop en fait qui nous empêchent de venir connaître qui est Dieu. Tout c'est trop, et pourquoi connaître qui est Dieu? Parce que je ne peux pas, on va très rapidement se débarrasser du mot crainte, enfin se débarrasser, le définir, hein, vous inquiétez pas. Je ne peux pas craindre Dieu si je ne le connais pas réellement. Je peux avoir peur de lui. Définition du mot crainte. Dans le dictionnaire, en français en tout cas, quand on regarde le mot crainte, c'est dire, c'est avoir peur, c'est être angoissé et être même super angoissé. C'est avoir une appréhension telle que tu as une boule dans le ventre. C'est avoir de l'inquiétude. En français courant, on dirait avoir la trouille, avoir les chocottes, être paralysé de peur, être mort de peur. Voilà ce que c'est, voilà ce que produit la crainte. C'est quelque chose de très, très négatif. Alors, du coup, on peut se dire, mince, est-ce que Dieu veut que je le craigne comme ça? En fait, c'est difficile de dire oui et non. Parce qu'on va voir que d'un côté, psaume 115, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Ésaïe 6:3, ils criaient l'un à l'autre, c'est la vision qu'Ésaïe a lors de l'appel qu'il reçoit sur sa vie. Ils criaient l'un à l'autre, il était dans la présence de Dieu, saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. On comprend bien qu'on n'a rien à voir avec lui. On comprend bien que là, il est au ciel, il fait ce qu'il veut, il règne dans quelque chose de tellement somptueux qu'on ne peut pas l'imaginer, on a beau essayer, on ne peut pas, on est limité, il y a des choses qui nous empêchent d'aller plus loin dans cette compréhension. Et puis Apocalypse 1:8 qui nous dit, je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc oui, Dieu est tellement grand que quelque part, oui. La crainte dans le sens qu'on a retrouvé dans le dictionnaire, il y a une certaine peur, une certaine appréhension, mais oui, et c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que c'est pas mon pote. C'est pas le gars qui... Non, c'est Dieu. C'est celui qui règne. C'est celui qui est dans toute sa gloire. Alors qu'est-ce que nous dit la Bible? J'ai pris quelques versets simplement sur qu'est-ce que nous dit la Bible sur la crainte de l'Éternel. Proverbe 16, verset 6 nous dit... Par la bonté et la fidélité, tu expies l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel est donc quelque chose qui m'aide, quelque chose que nous, on pourrait qualifier de négatif, la crainte, est en fait quelque chose qui m'aide à me détourner du mal. Quelque chose qui va m'aider à marcher d'une manière droite avec Dieu. Proverbe 15, 33 nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. On voit que là, le fait de craindre Dieu, c'est quelque chose qui va me faire du bien. C'est quelque chose qui va éclairer mon esprit. C'est quelque chose qui va m'aider à voir clair. Proverbe 22, verset 4 nous dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. L'humilité et la crainte de l'Éternel sont liées. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Pas la richesse. La richesse dans le cœur. La gloire et la vie. Psaume 34, 10 à 20. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Dieu est là en train de nous dire, mais oui, tu dois me craindre, mais en fait, quand tu vas venir dans ma présence, je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre quoi, en fait? Je vais t'apprendre à me connaître. Et on va le voir juste après, je ne vais pas t'apprendre à avoir peur de moi seulement. Je vais t'apprendre à me craindre dans le sens, oui, je suis Dieu. Mais je vais t'apprendre aussi à me connaître parce que je suis Dieu, mais toi, tu es mon fils. Hey, ça change la donne. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. On a là en fait la définition de ce qu'est l'attitude de vie d'un homme qui craint Dieu. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel les entend. Il les arrache de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Voilà ce qui est la vie de l'homme qui craint Dieu, qui se soumet à lui, qui cherche à le connaître. Et puis dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, 21, j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit, j'ai pris que de l'Ancien. Il nous dit, nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà la dimension de l'Église et la dimension dans laquelle nous devons grandir. Nous devons grandir dans la crainte de Christ, dans le fait d'honorer Christ. Alors, on a vu, dictionnaire, il nous dit, la crainte, c'est essentiellement lié à la peur, à la trouille, à l'angoisse. Mais quand on vient de lire ça, comment on pourrait définir la crainte de Dieu ? Est-ce que vous avez des mots qui nous aideraient à définir la crainte de Dieu ? Selon la Bible. Le respect ? L'obéissance ? Ouais. La fidélité ? Ouais. La confiance ? Ouais. Hey, y a que des hommes qui parlent, j'adore. L'amour, ouais. L'honneur, la révérence. Dieu est saint, vous vous souvenez ? Il est saint, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. La crainte de l'Éternel, c'est en fait tout ce qu'on vient de partager là. C'est une attitude de confiance pleine et entière, mais c'est en même temps une attitude de révérence parce que je n'ai pas juste confiance en Dieu, il reste Dieu. Il reste Dieu. Il reste celui qui est au-dessus de tout. Bien sûr, il vient à ma portée, mais il reste au-dessus de tout. Le fait que Jésus est, c'est peut-être des fois un petit peu ce qui est compliqué à bien saisir, Jésus est venu vers nous et je fais très attention à quand on appelle Jésus notre frère ou notre ami. Oui, il l'est. Mais ce n'est pas pour ça que c'est mon poteau. Poteau, en français courant, pour les plus de 25 ans, c'est le copain, le pote. Et je fais l'intelligent, mais en fait, j'ai découvert ça cette année parce qu'à force d'avoir des adolescents à la maison, tu es obligé d'être confronté à des langages que tu ne comprends absolument pas. Et j'ai fait jeune en troisième langue, moi. Et je me perfectionne tout le temps. Mais Jésus n'est pas notre pote. Il est, oui, notre frère, notre ami, mais il reste Dieu. Il reste Dieu, il reste saint. Et du coup, la définition de la crainte de Dieu est celle-ci. Il y a à la fois cette crainte, donc cette peur, je rejoins par contre cette peur, j'acquiesce, dans le sens, Dieu est élevé, et si je m'oppose, si je suis léger, si je le dénigre comme Élie l'a fait, eh bien, je suis forcément évacué de sa présence. D'accord ? Mais en même temps, il est ce Dieu qui m'aime. On chantait tout à l'heure. On sait qui nous sommes en lui parce que son esprit vient nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant. Et donc, il y a cette filiation, il y a cette confiance qu'il y a. Mais cette confiance et cette amitié de Dieu, cette proximité, ce cœur, n'enlève en rien le fait que Dieu est saint. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, je suis frappé, je suis travaillé par le fait que si je ne comprends pas ça, je vais vite être amené à voir Dieu d'une manière tordue. C'est-à-dire, je vais vite le prendre juste pour ce qui m'intéresse. C'est le Dieu de la grâce, c'est celui qui m'accepte comme je suis. Ouais, il m'accepte comme je suis, mais il n'accepte pas que je reste comme ça. Il a envie de me transformer. Il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Ça, c'est ce que la parole de Dieu déclare, et il le déclare depuis le Lévitique jusqu'à la fin de la parole de Dieu. L'appel de Dieu, c'est que son peuple qu'il prend devienne saint. D'accord ? Et des fois, nous, on prend le raccourci en disant, bah, puisque Jésus m'accepte, maintenant je peux vivre comme je veux. Mais ce n'est pas un bon raccourci. Ce n'est pas un bon raccourci. Un exemple d'un homme, plusieurs exemples d'un homme qui craint Dieu. David, j'aimerais vous lire une petite histoire qu'on retrouve dans 2 Samuel 23, versets 15 et 17. Je ne sais pas si je te l'ai mis, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas celui-là. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria, David, il était avec ses guerriers, 2 Samuel 23. Si vous avez envie de voir des héros, des mecs qui sont musclés, des gars que des vrais, quoi. Vous allez dans 2 Samuel 23 et vous allez voir là des gars qui sont juste exceptionnels. David fut pris fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria, « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Il était alors avec ses guerriers. Alors, les trois guerriers pénétrèrent dans le camp philistin. Ils puisèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas en boire. Il la répandit en libation pour l'Éternel. Et il s'exclama, « Que l'Éternel me garde de faire pareille chose. Cette eau représente le sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces trois guerriers. » Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la crainte de Dieu? Eh bien, le rapport avec la crainte de Dieu, c'est que David sait ce que c'est que l'honneur. Il sait ce que c'est que la vie d'un homme. Il sait aussi qui est Dieu. Et alors que ces trois hommes ont été au péril de leur vie chercher de l'eau parce que David avait soif, quand il ramène l'eau, David il dit mais ça je ne peux pas le boire. Ça je ne peux pas le boire parce que c'est votre vie. Et en fait, celui qui est saint, celui qui doit être honoré dans cette situation, c'est Dieu. C'est Dieu. David est quelqu'un qui a un cœur selon Dieu. C'est quelqu'un qui veut pas négliger ce qui est saint. Et alors il veut honorer. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes les situations dans lesquelles on traverse, que nous traversons les uns les autres, nous sommes appelés à avoir ce même jugement, ce même discernement que David. Comment est-ce que je traite les choses de la vie? Les choses qui me sont données? Les choses qui viennent vers moi comme ça? Si je sers un Dieu qui est saint, quand je sers dans l'Église, quand je sers ici et là, je sers aussi des principes qui sont saints. Et je ne peux pas être trouvé léger. Et David, là, n'est pas trouvé léger. La crainte de l'Éternel est pour mon bien. Le fait de craindre Dieu, de l'honorer, de vouloir le chercher est quelque chose qui est pour mon bien. Le prophète Jérémie, à un moment donné, en parle dans le chapitre 32. Le chapitre 32, on est à peu près au milieu du ministère de Jérémie. Le peuple est en grande partie déjà en Babylone. Et Jérémie est en train de parler. Jérémie qui a beaucoup parlé avant de pourquoi le peuple allait devoir être envoyé en déportation parce qu'il n'honorait pas Dieu de ça. Mais Jérémie parle en même temps du cœur de Dieu et d'un cœur de Dieu qui a soif et qui est déjà en train de dire quand est-ce que le peuple va revenir et comment ça va se faire. Et voilà ce qu'il dit versets 27 à 41. 37 à 41, pardon. Chapitre 32, 37 à 41. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère et dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Ce qui est dingue là, c'est de voir comment ce Dieu qui est saint, qui a été sali par un peuple qui l'a négligé et abandonné, comment ce Dieu qui est saint, comment notre Dieu, continue d'avoir ce cœur à dire mais moi je ne vous ai pas oublié. Oui, vous êtes passé par un temps où j'ai été obligé de vous amener dans un temps d'humiliation, mais mon cœur pour vous est toujours là. Verset 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Si j'honore Dieu, si je cherche à l'honorer, in fine, c'est pour mon bonheur et pour celui de celles et de ceux qui dépendent de moi. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Verset 40, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur, je mettrai l'honneur de mon nom dans leur cœur. Je les amènerai à me connaître vraiment pour qu'ils me révèrent, pour qu'ils m'adorent véritablement, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Quand je crains l'Éternel, quand je l'honore, quand je cherche à le connaître, quand je cherche à me soumettre à lui, eh bien, je suis gardé de m'éloigner de lui. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà le cœur de Dieu pour nous. Voilà le cœur de Dieu pour celles et ceux qui le craignent et pour celles et ceux qui honore son nom. Lorsque je crains Dieu et que je l'honore, cela m'amène à entrer dans le plan de Dieu. Quelques exemples d'hommes, rapidement. Moïse. Moïse, j'aime beaucoup cet exemple-là, parce que Moïse, il prend les choses en main au départ, et vous savez, Moïse a une quarantaine d'années quand il a la bonne idée de vouloir faire sortir le peuple de l'esclavage et qu'il y a un petit vent de rébellion dans son cœur contre Pharaon. Résultat, il tue un Égyptien. Résultat, il part pendant 40 années dans un désert où il va devenir berger, il va épouser son épouse, forcément, et il va avoir des enfants. Et puis là, Dieu l'appelle. Et j'aime tellement ce moment qu'on appelle le moment du buisson ardent parce que Moïse va se retrouver dans la présence de Dieu. Il ne connaît pas Dieu pour l'instant. Mais quand il se retrouve dans la présence de Dieu, Moïse est captivé par qui est Dieu. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Il sait qu'il n'est pas digne. Et d'ailleurs, Dieu va lui dire, la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte parce que je suis là. Ce n'est pas que le désert du Sinaï est spécialement saint. Vous pouvez y aller aujourd'hui, vous ne craignez rien. Mais le fait que Dieu était là physiquement, ce lieu était saint. Et Moïse rentre dans un temps d'adoration. Il ne va pas tout de suite tout comprendre. Il ne va pas tout de suite tout saisir. Mais quand Moïse, il y a tout un dialogue, je vous laisse relire ça, c'est dans Exode 3, tout un dialogue entre Moïse et Dieu. Mais quand Moïse se laisse toucher par l'Esprit de Dieu dans ce temps-là, alors il commence à rentrer dans sa destinée. Et sa destinée, c'est quoi? C'était de retourner en Égypte, c'était de sortir le peuple d'Égypte et de le faire rentrer dans la terre promise. Moïse est un homme qui craint Dieu. Moïse est un homme qui a appris à le connaître. Un autre homme qui craint Dieu et que j'aime beaucoup, c'est David. Un autre exemple de David. David avec Goliath. David, c'est dans 1 Samuel 17, vous retrouvez cette histoire. Et David avec Goliath, on voit qu'à l'époque, il y a la guerre entre les Philistins et les peuples hébreux et personne n'ose affronter Goliath. Mais David est quelqu'un qui connaît Dieu et qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui expérimente Dieu dans le quotidien. C'est quelqu'un qui sait que quand Dieu dit quelque chose, il peut s'appuyer sur lui. Et c'est quelqu'un qui sait que quand il s'appuie sur Dieu, il a la victoire. On relisait, on repartageait avec Nat cette semaine, on disait, mais on dit que David, il a tué des ours et des lions à main nue. Pour Pierre, David et Estelle, qui ont vu un ours cet été, Pierre David disait que c'était juste les Américains qui voulaient leur mettre des coups de poing dans la figure, mais je dis, non, il y a David. En fait, les Américains sont plus inspirés que nous par... Non. Vous êtes d'accord avec moi que c'est absolument impossible, humainement parlant, de mettre une tôlée à un ours et à un lion. Pour ceux qui ont été au parc des félins, je ne sais pas si vous avez vu les lions, même s'ils sont un peu gentils là-bas, moi je défie qui que ce soit ici de porter la main dessus. Quand je vois déjà ce que mon chat fait sur ma main quand il s'énerve, et il fait 3 kilos. Mais David savait que quand Dieu lui confie quelque chose, Dieu l'accompagne jusqu'au bout. Et c'est David n'est pas un surhomme. David est un homme comme toi et moi, mais il fait confiance à Dieu et il y a des choses qui se passent. Et c'est de cette manière-là qu'il arrive dans la bataille de Goliath. C'est insupportable pour lui que le nom de Dieu ne soit pas honoré parce qu'il connaît Dieu. Mais qu'est-ce qui le rend vainqueur? C'est pas qu'il a fait de la super musculation. C'est pas que c'est un homme hors du commun. Si, il est hors du commun dans le sens où il craint Dieu, mais il est préoccupé par une chose, David. Il est préoccupé par le fait que Dieu soit honoré. J'ai une question à te laisser. Est-ce que dans ta vie, la première chose qui te préoccupe, c'est le fait que Dieu soit honoré? Dans ta maison, dans les affaires, dans les clubs que tu fréquentes, dans les différentes relations. Est-ce que c'est Dieu et l'honneur de Dieu qui est ta préoccupation première, ou bien est-ce que ça vient en deuxième, troisième ou xème position? Je vous le dis, non pas en vous donnant la leçon, je m'aperçois justement qu'il y a bien des fois où en fait, ce n'est pas l'honneur de Dieu qui me motive premièrement. Le message du 6 ou 7 juillet sur les motivations du cœur. Ce n'est pas l'honneur de Dieu qui me motive premièrement. Et je m'aperçois qu'en fait, quand ça devient ça qui me motive, les choses sont beaucoup plus simples. Les réponses aux questions sont beaucoup plus simples. Ésaïe 6, l'appel d'Ésaïe. Dans Ésaïe 6, on voit là aussi quelqu'un qui est confronté à qui est Dieu et qui va l'honorer. Et qu'est-ce qui se passe quand Ésaïe est appelé? Je vous laisse relire ce chapitre magnifique chez vous. Hein. Mais Ésaïe se sent quoi? Il se sent super digne et super honoré d'être appelé par Dieu? Non. Ésaïe se sent exactement comme Moïse. Seigneur, je ne peux pas vivre là. Je suis en train de voir quelque chose qui ne peut pas me laisser la vie derrière. Mais en même temps, il sent que Dieu est en train de l'appeler. Et quand l'Esprit de Dieu déclare « Qui enverrai-je ?» Ésaïe dit « Mais moi, je vais me lever. » Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, il a un saut d'orgueil. Pas du tout. Parce que d'un seul coup, il est sûr de lui. Pas du tout. Parce que d'un seul coup, il a compris que c'est Dieu qui l'appelle. Et que si Dieu l'appelle, il va pouvoir marcher. Mais Ésaïe a dans son cœur la crainte de l'Éternel. Il sait qui est Dieu. Il sait que Dieu est digne d'être honoré. Est-ce que tu as envie de l'honorer? La crainte de Dieu, c'est lui faire pleinement confiance. C'est s'attendre à lui pleinement. C'est ce qu'on a vu pour David. C'est l'honorer et ne l'honorer que lui. C'est marcher d'une manière à ne l'honorer que lui. C'est ne pas le négliger. C'est marcher pour lui. On a défini la crainte de l'Éternel. On a regardé quelques hommes qui craignent l'Éternel et comment qu'est-ce qui a motivé leur vie, le fait de vouloir honorer Dieu. Maintenant, on va regarder quelques exemples où ces mêmes hommes ont négligé d'une manière ou d'une autre à un moment donné le fait d'honorer Dieu. Et on va regarder en quoi ça peut nous... Comment ça peut nous parler à nous et comment on peut glisser aussi là-dedans et quelque part, c'est dit que la parole de Dieu est là pour nous servir d'exemple, c'est-à-dire nous enseigner et nous faire voir comment on doit marcher ou pas. David et Moïse ont eu le même souci, c'est qu'il y a eu un moment dans leur vie que nous allons appeler clairement, parce que la Bible le déclare comme ça, péché, et qui a été des temps dans leur vie où ils ont été négligents avec l'honneur de Dieu. Le premier, c'est Moïse. On le retrouve dans Nombre 20. Vous savez, Moïse, dans Nombre 20, il a déjà fait un paquet de chemin avec le peuple d'Israël. Moïse est retourné en Égypte chercher le peuple. Il les a plus ou moins convaincus, je dirais. C'est surtout les miracles que Dieu a opérés qui les a convaincus. Hein. Mais très rapidement, il a affaire à un peuple qui, malgré le fait d'avoir vu des miracles extraordinaires en Égypte, à la sortie d'Égypte et dans le désert, un peuple qui régulièrement est un peuple au cou raide, nous dit la parole, qui se rebelle, qui est non reconnaissant, qui revient toujours sur ses vieilles habitudes et qui regrette toujours quelque part de servir Dieu. Et puis, il y a un moment donné, dans Nombre 20, un moment qui est vraiment éprouvant pour Moïse et Aaron, parce que le peuple, encore une fois, se plaint. Encore une fois, le peuple a soif, il n'y a pas d'eau, et ils ont déjà vu des miracles avec de l'eau qui jaillissait du rocher. Mais c'est comme s'ils sont oublieux, et quelque part, ils ont envie de faire la peau à Moïse et à Aaron. Et Moïse se présente à Dieu, et Dieu lui dit, tu vas parler au rocher, et il y a de l'eau qui va sortir, et tu vas m'honorer devant le peuple. Et Moïse, ce jour-là, est en colère. Ce jour-là, Moïse va s'énerver. Au lieu de parler au rocher, comme Dieu lui a dit, il va taper deux fois sur le rocher. Et Moïse, là, est exclu. Exclu de quoi? Exclu d'une partie du projet de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui dit, bah, écoute, puisque là, tu, en français courant, puisque tu m'as mal représenté, puisque tu as négligé l'honneur de mon nom, puisque tu n'as pas rendu l'image que je te demandais de rendre au peuple de moi, c'est Dieu qui parle, hein, eh bien, je suis obligé de poser un acte. Pourquoi ? Parce que Dieu est préoccupé. Vous savez, la Bible, ça nous raconte plein d'histoires, mais en fait, ça en raconte une seule. Ça raconte l'histoire de l'honneur et de la gloire de Dieu. Le personnage central, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse, David et tout ça. Ça, c'est des serviteurs, c'est des hommes qui nous font du bien, leurs histoires. Mais le personnage central, c'est Dieu. Et quand la gloire de Dieu, quand l'honneur de Dieu est touché, Dieu est obligé d'agir. Et quand dans cette situation, Moïse représente mal l'honneur de Dieu, parce qu'il était celui qui représentait par excellence l'honneur de Dieu, parce que Dieu lui avait donné une place particulière et qu'il y était, à partir du moment où il va la négliger d'une manière ou d'une autre, Moïse là se retrouve comme disqualifié. Alors je vous rassure, Moïse est au paradis. Il y a deux gars pour qui on sait absolument qu'ils sont au paradis, c'est Élie et Moïse. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont avec Jésus sur la mont. Les autres, je ne m'avance pas, même s'il y en a plein, je pense vraiment, mais eux, c'est sûr. Sûr et certain, il y a eu la preuve, même Pierre, Jacques et Jean les ont vus. Donc eux, ils y sont. Moïse est bien au ciel. Mais sur la terre, à un moment donné, l'honneur de Dieu n'était pas respecté. Et du coup, est-ce que Dieu avait déjà préparé que Moïse ne rentre pas dans le pays ? Vous avez un doute là ? Ben non. Dieu avait préparé que Moïse rentre dans le pays, de la même manière qu'il avait préparé que le sacrificateur Élie soit une lignée de sacrificateurs qui dure. Mais à un moment donné, parce qu'il y a un pas de désobéissance, parce qu'il y a un péché, parce qu'il y a une négligence sur l'honneur de Dieu, et là on comprend peut-être un tout petit peu mieux ce que c'est que la crainte de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que plus je vais grandir avec Dieu, plus je vais l'honorer, plus je vais devoir l'honorer, mais plus en même temps, j'ai des comptes à rendre. Plus je le connais proche. Si un Israélite, et puis ça arrivait plein de fois, avait tapé 10 fois sur le rocher en se mettant en colère, ça posait aucun problème. Ça posait un problème parce que l'homme qui s'est mis en colère là représentait Dieu. Parce qu'il était son serviteur, j'allais dire un mot, vous allez me pardonner, son serviteur chéri, il l'aimait beaucoup, Moïse, d'accord ? Je crois qu'il n'y a pas eu un homme sur la planète qui a eu une proximité aussi forte avec Dieu. Mais néanmoins, et peut-être justement à cause de cela, il ne pouvait pas laisser son nom être négligé, d'une manière ou d'une autre. Alors des fois, quand on lit cette histoire, nous, ça nous paraît difficile. On se dit, moi, vraiment, là, quand même, Dieu, quand même, c'est un peu dur, quoi. Une autre histoire un peu dans le même genre ? Allez, et après, on va conclure. David. David, un homme de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, il aime le Seigneur. Dans 2 Samuel 6, David a une super idée. Il dit, on va faire remonter l'Arche de l'Alliance. Et elle va habiter à côté de nous. David, c'est un homme super spirituel. Alors, il a une bonne idée, et quand on a une bonne idée, eh ben, on la met en action. Et il ne se pose pas de question de savoir si... Il la met en action. Il fait construire un char tout neuf, sans ridelle de protection. Ce qui fait que quand on va mettre l'arche sur la charrue, qui va être tirée par 2 bœufs, à un moment donné, il y a un trou. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de ridelle ? Ça tombe. Et là, il y a un gars, mais franchement, moi je dis, mais tout le monde, nous on aurait tous fait pareil que lui. Vous imaginez Uzza. Uzza, il est dans ce temps de fête, et puis Uzza, je ne sais pas quel était son rapport avec David, et avec, mais quand même, c'était un des deux qui était à droite et à gauche, c'est-à-dire que les mecs, mais ils devaient être honorés de chez honorés, quoi. Tu fais le voyage de l'arche de l'Éternel, et puis il y en a un à droite et un à gauche, et il y en a un à côté, c'est Uzza. Ça penche vers lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse tomber ? Non. Non, Uzza, il touche. Il ne veut pas que ça tombe, c'est trop sacré. Mais, et qu'est-ce qui se passe ? Uzza est foudroyé. Si vous allez lire ce passage-là dans 2 Samuel 6, vous allez voir deux choses. enfin plus que deux choses, mais deux importantes. David est attristé et irrité. David ne comprend pas. Au départ, il ne comprend pas. Il est en colère quelque part contre Dieu. Sa première réaction, c'est ça. Et en même temps, il va être attristé. Il va comprendre en fait qu'il a entrepris quelque chose de saint avec négligence. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi je vous dis ça dans un dimanche de rentrée? Vous me dites, le gars, il veut juste nous péter le moral. C'est juste parce que j'ai envie qu'on s'encourage à être attentif à la façon dont on honore Dieu. Parce que je sais trop, j'apprends trop à le savoir, que si je n'honore pas son nom correctement, comme ça, je vais le négliger. Et si je le néglige, ça ne peut pas passer inaperçu. Ça ne peut pas être quelque chose que... Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, peut-être vous vous dites, ouais, mais bon, ça, c'est juste pour David et Moïse ou pour ceux qui ont accepté la charge folle d'être pasteur. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, la Bible dit que ceux qui aspirent à une charge seront jugés plus sévèrement. C'est clair, c'est net, il n'y a pas... Voilà, c'est là. Donc, on ne va pas se le cacher. C'est aussi pour ça que je dis qu'on ne devrait pas confier à qui que ce soit une responsabilité sans l'avoir averti avant de ce qu'est l'honneur de l'Éternel et la crainte de l'Éternel. Parce qu'en fait, c'est mettre un piège à quelqu'un si on ne le prévient pas du total du package. D'accord ? On doit être bien au clair sur le fait qu'être chrétien, ce n'est pas juste un t-shirt. Ce n'est pas juste un club. Il y a quelque chose qui va devoir se vivre avec et il y a un honneur à notre Dieu qui doit être porté. Mais ça dépasse largement le rôle des pasteurs et de ceux qu'on va mettre dans la catégorie des hommes de Dieu. Alors déjà, ça touche aussi les femmes. Parité, mesdames. Et puis ça nous touche tous d'une manière ou d'une autre parce que tous, d'une manière ou d'une autre, on est un référent pour quelqu'un. Tous, d'une manière ou d'une autre, on est un référent pour quelqu'un. Nos enfants, d'autres enfants, nos frères et sœurs dans l'Église, on va tous, à un moment donné, être un référent pour quelqu'un. Et si c'est le verre du téléphone qui est tombé, ça... Non, c'est bon. On est tous un référent pour quelqu'un et quelque part, on a tous une responsabilité. Vous savez, ce matin, je relisais dans Matthieu 6 ou 12, quand Jésus dit, mais... Si l'un d'entre vous est une pierre d'achoppement pour un de ses plus petits, pour un des enfants, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une pierre de meule à lui et qu'on le jette au fond de la mer. Ça vous donne une idée un petit peu de comment Dieu traite la négligence quand son nom n'est pas honoré dans toute situation. C'est-à-dire que si j'honore pas son nom, si mon attitude, elle encourage un enfant à se détourner de Dieu, voilà ce que ça produit. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. L'honneur de Dieu, c'est pas quelque chose qui est à la rigolade. La grâce est pleine et entière et Jésus a payé pleinement et entièrement. La porte est pleinement ouverte. Mais le fait que la porte soit pleinement ouverte n'enlève en rien, et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne ce matin, n'enlève absolument en rien le fait que Dieu est saint. Et qu'il doit être honoré. Une dernière histoire est celle d'Ananias et Saphira. Vous savez, si on est négligent avec quelque chose qui est saint, avec quelque chose qui est sacré, notre vie sera impactée. Ananias et Saphira, acte 5, l'histoire de ces deux personnages. Juste avant, il y a acte 4, et la fin d'acte 4, c'est Barnabas. Barnabas, le fils d'exhortation, celui qui va permettre à l'apôtre Paul de devenir l'apôtre Paul, notamment, c'est lui qui va l'encourager et qui va le laisser être dépassé largement derrière là. Barnabas a un terrain, je ne sais pas s'il en a d'autres, mais il a au moins un terrain qu'il met en vente et il met tout l'argent de ce terrain aux pieds des apôtres pour bénir la première église, pour aider les pauvres, pour fortifier celles et ceux qui ont des besoins, tout ça. Et dans cette première église, qui grandit dans un contexte de persécution flagrant d'oppression, de tension spirituelle. Je crois que c'est le moment sur la planète où il y a la plus grande tension spirituelle. Jésus vient de donner sa vie. Je ne sais pas si vous imaginez le moment, comment il est crucial. Jésus vient de donner sa vie, il est ressuscité et le diable a échoué dans le fait de faire en sorte que Jésus n'aille pas sur la croix. Le diable ne voulait pas que Jésus aille sur la croix. Le diable voulait tout sauf ça. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, il va lui mettre des tentations, jusqu'à la tentation de ces gens qui, alors qu'il est sur la croix, lui disent « Mais si vraiment tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne demandes pas de descendre ?» Jusque-là, Jésus va avoir la tentation de ne pas aller jusqu'au bout. Mais Jésus va aller jusqu'au bout. Et voilà le contexte dans lequel on est. Il vient de se vivre ça. L'église grandit. Ananias et Saphira sont touchés par la grâce de Jésus. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vécu quelque chose de personnellement fort avec Dieu. Et puis Ananias et Saphira ont, comme Barnabas, en tout cas au moins une maison et quelque chose qu'ils ont envie de vendre et qu'ils vont vendre. Et Ananias et Saphira vont apporter une partie du prix de cette maison. Mais vous savez, comme moi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont exagérer. Ils vont faire croire, je ne sais pas comment, parce que l'acte 5 ne nous le détaille pas, mais ils vont faire croire qu'ils ont tout donné alors qu'ils n'ont donné qu'une partie. Ils essayent de tromper les hommes sur leur degré de sanctification. Ils essaient de tromper l'Église sur qui ils sont vraiment. Et en d'autres termes, in fine, ils essaient de tromper Dieu sur leur niveau de spiritualité. Et là, le jugement est sans appel. Le premier, c'est Ananias, il rentre, Pierre lui dévoile son péché, il meurt. Tac. Quelques heures après, sa femme rentre. Et là, le pire de tout, c'est qu'en plus, ils étaient complices l'un avec l'autre. Il lui dévoile son péché, elle est foudroyée, elle part être enterrée. Et là, on se dit, waouh, qui n'a jamais exagéré? Qui n'a jamais essayé, au moins par un silence, des fois on exagère par nos silences, qui n'a jamais exagéré pour faire croire qu'il en était un tout petit peu plus loin que ce que là où il en est au niveau de sa spiritualité? Quand tu touches au sacré de Dieu, il faut saisir que ce n'est pas quelque chose qui l'honore. Et cette histoire est dans la Nouvelle Alliance pour nous faire voir justement que la croix n'enlève en rien l'honneur qui est dû à Dieu. J'ai envie de nous encourager et que cette année soit une année dans laquelle on s'encourage à être des hommes et des femmes qui honorent Dieu. Des hommes et des femmes qui ne vont pas faire semblant d'être plus loin que là où ils sont. Des hommes et des femmes qui acceptent là où ils en sont. Pas accepter dans le sens, bah, c'est une fatalité, je ne pourrai jamais m'en sortir, aller plus loin. Mais accepter dans le sens, bah, voilà, la réalité, c'est ça. Là où je suis en difficulté, là où je pêche, c'est là. Mais j'ai besoin de Dieu et puis je vais m'attacher à lui et puis je vais demander aux frères et aux sœurs, à ceux qui me sont proches, de prier avec moi pour ça. Si tu veux honorer Dieu, tu as besoin d'être vrai avec lui. Tu as besoin de pas faire comme Ananias et Saphira qui ont voulu tromper quelque part. Mais de laisser Dieu être honoré plus que tout. De laisser Dieu être honoré plus que tout. Est-ce que tu as envie que Dieu soit honoré plus que tout dans ta vie? Est-ce que tu as envie que lui et lui seul reçoivent la gloire dans ta vie? Attention, ne répondons pas trop rapidement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle quand on accompagne des gens dans le baptême à s'engager avec Dieu et à se faire baptiser, on prend le temps. Parfois, on nous dit, mais ouais, mais à l'époque de la Bible, on allait plus vite. Alors, déjà, ce n'est pas sûr, pas tout le temps. Hein. Mais peut-être que pour Ananias et Saphira, il aurait mieux valu aller un peu plus lentement. Si on regarde sur la fin de leur histoire, je me dis, waouh. Et puis, on a besoin de poser les choses. On a besoin de savoir ce que ça veut dire vraiment être un disciple. Ça veut dire quoi? Donner ma vie à Jésus. C'est pas juste une formalité. Déclarer que je suis chrétien n'est pas juste du clubbing, ce que j'appelle adhérer à une bonne éthique, à une bonne morale, et puis faire partie du bon groupe. Être chrétien, c'est le fait d'honorer Dieu en tout temps et pour toutes choses. C'est ce que j'ai envie de nous encourager à dire cette année. Cherchons à honorer Dieu. Cherchons-le plus encore. Soyons attentifs les uns aux autres. Et quand un frère va trop vite, soyons attentifs à lui. Nicole, est-ce que tu peux venir lire ton texte, s'il te plaît? T'es surprise. Viens. Ouais, je veux que tu le dises maintenant. Tu voulais lire pendant qu'on faisait passer le pain? Non? Tu préférais pas être devant, ouais. Mais faut qu'on t'entende, après peu importe si tu... Vas-y. Voilà, je crois que c'est une bonne conclusion.
Je téléphonais ce matin à Serge parce que j'avais un texte sur le cœur et puis c'est dans le même sens que le message. Alors voilà, je vais vous le partager. C'est Osée, le chapitre 14 d'Osée. Dans ma Bible, le titre c'est « Appel à la repentance et promesses pour l'avenir ». Et moi, il me semblait que Dieu voulait parler à plusieurs et nous disait qu'il nous prend là où on en est pour nous amener à vivre la vie abondante qu'il a prévue pour nous. Si on l'écoute et si on lui obéit, eh bien, c'est ce qu'on va vivre. Donc, Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Donc, bien sûr, ça, c'est la repentance. Et ensuite, nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Donc, ce n'est pas des sacrifices avant tout, c'est nos cœurs. L'hommage, c'est l'hommage de nos lèvres. Hein, Dieu veut notre cœur. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Donc, ce n'est pas l'homme qui va nous délivrer. Et nous ne monterons pas sur des chevaux. Hein, dans l'Ancien Testament, il y a souvent cette phrase. Le symbole, c'est quand nous-mêmes, on prend les choses en main dans notre vie. On veut aller vite, on fait la course avec les chevaux, mais c'est nous qui sommes à l'initiative et pas Dieu. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Et donc, pour moi, ça me faisait penser ça, nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, c'est le Dieu réussite. Ce Dieu réussite, il nous fait croire des choses, mais il est exigeant. Il veut tout nous prendre et il nous éloigne de la grâce. Et c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Ça veut dire que si on se tourne vers un autre Dieu que notre Dieu, on n'a plus cet amour de Dieu, on ne reçoit plus cette compassion. On se rappelle quand Jésus l'a dit à ses disciples, justement, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et si notre Dieu, c'est le Dieu réussite, eh bien, on ne reçoit plus cette aide du Saint-Esprit, cette compassion. Alors après, Dieu parle, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Et là, le Seigneur interroge Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai. Je veillerai sur lui, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand Dieu dit, mais qu'est-ce que tu vas faire encore avec les idoles? Dieu, c'est notre Père, il nous regarde, il veille sur nous. Et c'est de lui qu'on reçoit le fruit. Hein, c'est comme... Moi, j'ai d'ailleurs un parallèle qui parle du cep et des sarments. Ce qui est demandé à un sarment, c'est d'être attaché au cep. C'est la communion avec Dieu. C'est là qu'on reçoit la vie abondante qui coule en nous et à travers nous. Et si on se tourne vers les idoles, c'est la stérilité. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de Dieu sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Que le Seigneur permette qu'on comprenne, qu'on marche sur sa voie et puis qu'on rentre dans son héritage.
Amen. Merci. On va prendre ce temps de scène aussi en étant attentif à tout ça. Non pas en étant terrorisé, mais Dieu reste ce Dieu saint. Et comme je le disais tout à l'heure, la porte est grande ouverte. Maintenant, il y a, comme on vient de le lire dans ce texte d'Osée, d'un côté la fidélité de Dieu, mais en même temps, de notre part, un choix, une position à prendre. Un choix de nous détacher de ce qui ne l'honore pas, une position de l'honorer, de le servir lui et de laisser de côté tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, devient comme une idole. Une idole, c'est juste ce qui prend la place de Dieu. Ce n'est pas du métal ou du bois, ou c'est ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Et si tu as pris un engagement avec Jésus, si pour toi ça correspond à quelque chose, alors prends ce temps. Prends ce pain et ce vin, symbole du corps de Jésus qui a été rompu, cloué à la croix pour toi et pour moi, de ce sang qui a été versé, signifiant là jusqu'à la mort, et qui aujourd'hui est ce sang qui est marqué sur nos vies et qui nous dit « mais j'ai payé le prix pour toi ». Et c'est ça qui nous donne l'accès, la grâce de rentrer dans la présence de Dieu. Mais prenons-le aussi avec crainte, dans le sens avec honneur, parce que Dieu est un Dieu saint et que ce que nous prenons quand nous prenons la Sainte Cène, ce n'est pas un acte liturgique seulement. Ça correspond à quelque chose de sacré. L'apôtre Paul, à la fin du chapitre 11 de la première aux Corinthiens, va mettre en garde les Corinthiens qui prennent légèrement la scène en disant « Mais attention, c'est pour ça qu'il y a au milieu de vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Il dit en fait, au milieu de vous, et puis l'église de Corinthe était spécifique par rapport à ça, enfin marquée par rapport à ça, il connaissait beaucoup de choses de Dieu, mais la crainte de l'Éternel était négligée. Et Paul nous éclaire à ce niveau-là. Il ne nous éclaire pas pour qu'on s'écarte de la table, mais pour qu'on puisse la saisir tout ce que Jésus a accompli et que c'est pas une formalité, un rituel religieux, mais c'est au contraire le temps où on revient et on dit « Seigneur, voilà, je m'engage avec toi ». Ce qui est important, c'est d'être dans une conscience qui est pure, dans quelque chose où notre cœur ne se trompe pas, comme le cœur d'Ananias et Saphira qui essayaient de faire semblant, mais qu'on soit vrai dans ces choses-là. Seigneur Jésus, merci encore. Merci pour ta patience, ta fidélité, la façon avec laquelle tu nous rappelles ton amour. Merci pour ton corps, Seigneur, qui a été brisé, ton sang qui a été répandu pour nous et qui aujourd'hui nous donne accès, Seigneur, dans ta présence. Merci parce que tu nous dis qu'à chaque fois que nous nous retrouvons, de nous rappeler ces choses. Pas comme un vieux rituel, mais parce que c'est la réalité qui donne toute la force à notre espérance. Seigneur, et alors que nous prenons ce pain et ce vin, Seigneur, nous nous rappelons que tu as tout donné, mais que nous sommes là aussi, nous, en répondant, Seigneur, en te disant, eh bien, nous aussi, Seigneur, moi aussi, je veux tout te donner, et tout l'honneur, et toute la gloire dans ma vie est pour toi, et uniquement pour toi. Que celles et ceux pour qui ça correspond à quelque chose se lèvent simplement, et puis qu'on puisse partager ce temps. Amen.